Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler de la mythologie astrale de Médusa. Et en fait, c'est marrant parce que c'est... Médusa... Oh my god, ça commence mal. Déjà, merci à tous les Patreons, merci à tous, merci à tous les auditeurs. Merci à mes auditeurs fantômes aussi, il y en a de moins en moins. Et je suis grave content et c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les commentaires en mode... Vas-y, j'étais un auditeur fantôme, maintenant j'ai décidé de prendre ma lecture de thème avec toi, donc ça c'est un gros coming out, tu passes de fantôme à je vois tout ce qui s'est passé dans ta life. Et plein d'auditeurs fantômes dans les commentaires aussi en mode vas-y, je commente jamais, mais là vas-y, je vais commenter. Donc ça, juste pour ça, je suis premier à dire qu'il faut apprécier et qu'il faut dire quand les choses elles sont bien et tout, et franchement, gros cœur sur vous les auditeurs fantômes. Je sais pas pourquoi vous êtes des fantômes, mais voilà, venez vers la vie, venez vers la lumière, rentrez dans la communauté. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parlons de la mythologie astrale de Médusa. Ça va pas du tout être en mode storytelling parce que j'ai trop de choses à dire pour juste vous potasser le mythe de Médusa. Je pense que tout le monde le connaît. On va évidemment le revisiter ensemble, sinon c'est pas fun. Mais si vous voulez le mythe de Médusa, moi j'ai fait une revisite, un remix de mythologie astrale du mythe de Médusa où en fait j'ai décidé de partir de la perspective justement de la prêtresse d'Athéna qui a été attaquée dans le temple d'Athéna et qui a ensuite été transformée en Médusa, condamnée, livrée à survivre en fait sur cette île déserte avec ses sœurs, puisque les Gorgones, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et je vous redirige aussi vers les adaptations évidemment du mythe de Persée, si je ne me trompe pas, et évidemment de l'affrontement avec la Médusa qui a été décapitée pour l'utiliser contre l'hydre de Lerne, super difficile à prononcer ce truc, et sauver la princesse qui avait été sacrifiée à ce monstre. Médusa, pourquoi je dis qu'elle est partout? Parce qu'en fait, si vous êtes attentif aux épisodes du podcast, vous aurez remarqué les serpents en fait, qui se trouvent sur le visuel de mythologie astrale. Et en fait, pour les personnes qui ont eu des consultations en direct avec moi, il y a longtemps, parce qu'entre-temps, j'ai acheté un bête de micro et je me suis équipé aussi, grâce à vous, au niveau de la caméra. Mais j'utilisais en fait comme avatar une représentation de Médusa. C'est une œuvre d'art qui est super belle et je vous donnerai les détails dans les commentaires. Et que j'ai utilisé en fait pour illustrer en fait mythologie astrale. Pourquoi ? Parce que pour moi, à l'image en fait de la maison de luxe Versace, qui a adopté aussi l'image de la Méduse, et il n'y a pas que Starbucks... En fait, Médusa est devenue un symbole, une icône que tout le monde utilise pour référencer cette espèce de passé glorieux, cette espèce de temps ancien. Et ça m'a toujours surpris en fait qu'on utilise cette image-là parce que c'est pas forcément une image qui est très sexy, mais en même temps c'est une image qui porte beaucoup d'énergie. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Ensuite, je me suis toujours demandé mais pourquoi et surtout comment en fait Poséidon, qui est un rival d'Athéna, faut pas oublier, c'est un rival d'Athéna. Pourquoi elle et pourquoi l'attaquer elle? Mais en fait, parce qu'ils sont en rivalité depuis le début, elle s'est juste retrouvée coincée entre les deux, quoi. Et au-delà de ça, il y a eu tout un phénomène et tout un mouvement sur les réseaux sociaux autour de justice pour Médusa ou justice pour Méduse, parce qu'en fait, j'ai Médusa, mais pour nous, ça doit être Méduse. Justice pour elle, parce que les gens avaient l'impression, en fait, que même dans la mythologie, la manière dont le mythe avait été raconté ne lui rendait pas vraiment justice. Voilà. Et surtout, il y a vraiment cette idée de l'innocence aussi de Médusa. Donc moi, en tant qu'auteur, forcément, vous savez, moi, j'écrivais des fanfictions quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait ma propre fanfiction du mythe de Médusa. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement raconter cette histoire. Pour moi, c'est tellement une histoire de fou. Et en vrai, je vous dis ça, c'est comme si je pensais à voix haute, mais je pense sincèrement que je vais écrire une histoire autour de ça parce que ça m'inspire trop. Pour moi, le mythe de Médusa, c'est vraiment tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrive lorsqu'on décide de se détourner du chemin de sagesse et qu'on se laisse dominer par nos émotions, en fait. Dans le sens où la manière dont elle a été transformée, maudite en fait, faut parler français, maudite par Athéna, transformée en ce qu'elle est devenue, bannie ensuite sur cette île, condamnée en fait à tout le temps combattre pour survivre, sinon elle se fait défoncer par des cargaisons de héros venant de tout le monde antique pour pouvoir l'affronter. C'est violent et en même temps, les circonstances dans lesquelles elle est devenue ce qu'elle est devenue sont violentes aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été omis dans ça, c'est la colère, en fait. C'est la colère et la rage de s'être dit, gros, j'ai dédié ma vie à cette divinité. Et c'était quelque chose à l'époque de dédier sa vie à une divinité. Généralement, les gens faisaient vœu de chasteté, surtout les femmes. Voilà, on se prive aussi d'une certaine vie sociale parce qu'on doit servir au temple, etc., etc. Et en fait, du coup, être dans ce temple qui est censé être l'incarnation physique de la maison de la divinité et ne pas recevoir la protection et la bienveillance en fait, de cette divinité-là, je ne peux même pas imaginer la colère de Médusa à l'époque. Et c'est marrant parce qu'on l'a appelée Médusa par rapport à son apparence, mais est-ce que c'était réellement son prénom? Et c'est pour ça que dans la revisite du mythe, je l'ai appelée Thalassa, et oui, qui est d'origine grecque, comme prénom, et je me suis dit, waouh, je vais re-raconter cette histoire. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que pour moi, ça fait beaucoup plus sens, en fait. Dans le remix, en fait, du mythe, on se concentre vraiment sur la vie de cette prêtresse qui a pas beaucoup d'argent, mais qui du coup dédie quand même sa vie à Athéna et à son temple. Athéna qui est la déesse de la sagesse, donc vous imaginez bien que les personnes qui se présentent comme des disciples d'Athéna sont forcément des personnes qui sont amenées à cultiver aussi cette sagesse, cet art de la guerre aussi, c'est une stratège. Enfin voilà, donc c'était pas une enfant en fait. Hein, la prêtresse, on connaît pas son prénom. Moi j'ai choisi un prénom, mais on connaît pas son prénom. Mais clairement c'était pas une idiote en fait qui était. Elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et comme je vous disais, il y a toujours eu cette rivalité entre Poséidon et Athéna. Ou Neptune et Pallas Athéna, tout simplement parce que ils se disputaient le dominion. Ils se disputaient la régence de la cité d'Athènes, en fait. Voilà. Les deux voulaient avoir l'allégeance du peuple grec, et je pense que voilà, en bonne entité qu'ils étaient, peut-être qu'ils ont capté que le peuple grec allait influencer le reste de l'humanité pendant longtemps, et forcément placer ses pions ici, ça aide. Et globalement, vous verrez qu'on a une image beaucoup plus positive d'Athéna en Occident et particulièrement en Europe de l'Ouest, de l'Est ou même en Europe centrale que de Neptune, Poséidon. Alors que quand on va dans d'autres cultures et dans d'autres pays, on a une image un peu plus positive des divinités qui sont associées à la mer. C'est pas forcément le cas ici. Et donc voilà, pour moi, c'était ça, le fait de raconter la mythologie astrale de Médusa, c'est comment tout ça, ça a pu se produire, et surtout, comment ensuite la colère fait qu'on ne peut plus se libérer de cette malédiction. Il n'y a pas de rédemption, en fait, pour Médusa. Enfin, c'est trop violent, cette histoire. Enfin, bon, après, c'est une tragédie grecque, donc c'est normal. Mais voilà, il n'y a pas de rédemption pour elle, quoi. Elle est condamnée à se battre jusqu'à ce qu'elle meure, en fait. Et au final, elle finit par mourir. Elle est décapitée et on porte sa tête. Et c'est marrant parce que même décapitée, elle est encore vivante. Donc, ça montre aussi la dimension magique hein, de la Gorgone et comment, en fait, cette énergie de colère et de rage peut vraiment servir à déployer de la puissance, en fait. Hein. Elle est extrêmement forte, en fait, Médusa. Elle est forte, elle est agile, elle tire à l'arc, elle se déplace extrêmement vite alors qu'elle est lourde. Enfin, c'est un monstre, quoi. Et c'est marrant parce que justement le mythe de Médusa, on pourrait aussi vous dire qu'elle est née de comment il s'appelle, elle est née de Typhon. Enfin voilà, il y a plein de variantes du mythe de Médusa. Moi j'en ai choisi qu'une seule pour faire mon remix, mais il y a plein de variantes qui sont disponibles comme beaucoup de mythes en Grèce antique. Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque. Chacun faisait sa sauce, chacun faisait son remix. Et voici mon humble participation. En tout cas, tout ça pour dire que le symbole de la méduse, il est partout. Et il est partout sur mythologie astrale parce que c'est l'un des symboles pour moi qui représente vraiment le mieux l'Antiquité. Et l'Antiquité, c'est ma période préférée de l'histoire, même si c'est une période qui est extrêmement violente. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense qu'en tant que personne du présent, on a un regard sur l'Antiquité, mais c'est normal, hein, c'est comme ça, qui est très glorifiant. C'est un regard qui est très nostalgique d'un monde peut-être où certaines vertus, certaines convictions étaient plus importantes que d'autres. Un monde où il y avait certes moins de justice et moins d'équité, mais peut-être plus de vie, plus d'exaltation. Je trouve qu'on a vraiment une glorification de cette époque-là. En tout cas, moi, je sais que je l'ai. Et en tout cas, Médusa, je trouve, représente très bien tout ça, quoi. Et on peut le voir même dans la maison Versace, la maison de luxe italienne, comment ils ont repris, en fait, l'image de la méduse pour en faire leur logo. Bon, après, eux, ils ont vraiment étendu le truc et ils en ont fait quelque chose de vraiment beau. Mais en même temps, j'ai envie de dire encore heureux, hein, c'est une maison de luxe. On les paye pour ça. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de formidable, je trouve. Après, le mythe en lui-même, il est tragique dans le sens où c'est une prêtresse, elle n'a rien demandé, elle est poursuivie par Poséidon, elle est violée par Poséidon dans le temple, et parce qu'elle a fait ça dans le temple, elle est condamnée. Et donc ça reflète bien aussi la cruauté envers les femmes hein, de l'ancien temps. C'était un peu à l'image des Vestales. Si jamais on apprenait qu'une Vestale qui est censée avoir confié son corps et sa virginité au temple de Vesta à Rome, elle était lapidée en place publique ou violée, condamnée à mort, etc. Enfin voilà, c'était vraiment... elle devait faire vœu de chasteté absolument, quoi. Anyways, en tout cas, le mythe de Médusa, pour moi, c'est un mythe qui est dur. C'est un mythe qui est... je sais pas, en tout cas, qui ne me satisfait pas. Peut-être aussi que les adaptations des films autour du mythe de Médusa conditionnent aussi la manière dont on voit ce truc, mais je sais pas, je me dis quand même qu'à l'époque à laquelle on vit, où la plupart des héros dans la tête des gens sont des anti-héros, des monstres, des vilains, des antagonistes, je pense qu'on pourrait faire preuve d'un peu plus d'exigence intellectuelle et se poser des questions vraiment sur ce mythe-là. Est-ce qu'elle était vraiment fautive, en fait, dans l'histoire? Et surtout, si elle avait utilisé toute cette colère et cette rage et qu'elle avait pu la transmuter en autre chose, qu'est-ce qui se serait passé, en fait? Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire la nouvelle solution sur mythologie astrale que j'ai décidé d'appeler le Médusa. Donc, récemment, il y a eu le Perséphone qui permet vraiment d'explorer le Dark Side, Orphée, qui est en fait la synastrie karmique. Et en fait, maintenant, on a le Médusa. Et ici, l'idée, c'est d'identifier l'archétype de la Gorgone et d'anticiper, je dirais à l'avance, les éruptions volcaniques d'émotions qui peuvent avoir lieu dans une vie, surtout lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est humilié, lorsqu'on se sent profondément meurtri ou lésé. Il y a vraiment cette espèce d'éruption volcanique d'émotions, généralement de la colère, hein, de l'indignation aussi, hein. Qui remontent à la surface et malheureusement, ce sont des situations où on peut perdre beaucoup de choses juste en perdant la maîtrise de nos émotions. Donc voilà, l'idée, c'est d'identifier justement ces points de colère, identifier l'archétype de la Gorgone dans le thème et enfin trouver aussi les moyens, grâce à Chiron, grâce à d'autres éléments dans le thème, de transmuter ensuite cette énergie, grâce à Saturne aussi, hein, de transmuter cette énergie en quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus créatif, et en fait, voilà, de se servir de sa propre colère, de sa propre rancune, pour faire quelque chose de grand. Donc voilà un petit peu pour la mythologie astrale de Médusa, et je vous invite à revisiter la page de mythologie astrale pour les personnes qui écoutent le podcast en dehors de YouTube, et il y a un petit post qui raconte du coup la petite histoire de la mythologie astrale de Médusa, sauce Chris. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là et on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler cette fois-ci de la mythologie astrale d'Eris. Voilà, j'ai décidé de revenir un petit peu vers les astéroïdes et on va parler d'Eris.